dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter la faute.
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé. Moitié-moi.
Et bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sûr Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi 29 avril. Et on va commencer par vous annoncer les titres.
Voilà, à l'international, on parlera de ce que subissent les antifascistes en Hongrie, puis de la perquisition des chaînes télé-kurdes en Belgique, et enfin d'un mouvement d'occupation des universités américaines.
Et au national, on va continuer justement sur le mouvement pro-Palestine, mais en France avec le mouvement étudiant. On parlera ensuite de la journée nationale d'action contre les morts au travail qui s'est tenue le 25 avril. Et on parlera du nouveau projet de loi anti-logement social.
Et au local, on parlera d'un rassemblement de soutien à un exilé enfermé en CRA et de la répression et de l'expulsion de squats à Lyon.
Et notre dossier du jour, c'est l'interview des grévistes de Cotel dont on vous a déjà pas mal parlé ces 15 derniers jours.
Et on commence tout de suite avec les brèves.
Et oui, donc pour commencer, une manifestation pour demander la libération du rappeur Tomaj. Donc Tomaj Salehi est un rappeur iranien qui risque la pendaison pour avoir soutenu le mouvement contestataire Femmes, Vie, Liberté. Donc après avoir arrêté une première fois et condamné à 6 ans de prison, il a été arrêté une nouvelle fois en novembre où il risque donc la pendaison pour avoir chanté son soutien. Donc un rassemblement s'est tenu hier pour demander sa libération où 300 personnes sont venues montrer leur soutien pendant que la répression continue en Iran.
Alors il y avait déjà pas mal de raisons de boycotter Google et Amazon, mais en voilà une de plus. Le 18 avril dernier, des salariés de Google ont organisé un sit-in en Californie, à Seattle et à New York. En Californie, certains et certaines sont rentrés dans des bureaux de la direction pour protester contre un contrat de 1,2 milliard de dollars portant sur des services informatiques à distance fournis par Google et Amazon à l'armée israélienne et au gouvernement israélien. Le soir même, 30 d'entre eux ont immédiatement été interpellés et licenciés par Google pour avoir, je cite, entravé le travail d'autres salariés. La semaine dernière, donc quelques jours plus tard après l'action, 20 de plus étaient licenciés avec une enquête interne. D'un côté, donc, on a des entreprises qui soutiennent un État et une armée qui commet un génocide. De l'autre, des manifestants et manifestantes pacifiques qui se font licencier gratuitement. Google, Amazon et consorts boycottent.
Et aujourd'hui, Gérard Depardieu a été placé en garde à vue dans le cadre d'enquêtes sur 2 agressions sexuelles, harcèlement sexuel et outrage sexiste, pendant le tournage de 2 films différents, donc un il y a 10 ans et l'autre il y a 3 ans. Les enquêtes sur ces 2 agressions font suite à la plainte d'une des 2 victimes et au témoignage d'une autre dans Mediapart. On rappelle qu'il est aussi mis en examen depuis 2020 pour un viol qui date de 2018, qui a une autre plainte contre lui pour des faits de 2007 qui sont prescrits, et encore une autre plainte déposée en Espagne pour un viol datant de 1995. Soutien à toutes ces victimes donc, et on vous tiendra informé de la suite.
Et on enchaîne avec l'international. International.
Et oui, donc on va parler de la répression des antifascistes en Hongrie. Alors tout d'abord, jeudi et vendredi dernier, l'extrême droite américaine et européenne se sont retrouvées à Budapest chez Viktor Orban, donc avec comme invité le Hollandais récemment élu Geert Wilders, des membres du parti espagnol Vox et bien d'autres, tout ça avec l'appui bien évidemment de Donald Trump. Donc au programme de la rencontre anti-immigration et anti-LGBT dans un contexte d'élections européennes et d'élections américaines. C'est donc l'occasion de rappeler que la répression des antifascistes en Hongrie est violente. 4 militants antifascistes sont aujourd'hui en détention et risquent jusqu'à 24 ans de prison ferme pour leur lutte contre les néo-nazis. Donc rappel des faits, le 9 février 2023, des néo-nazis et des antifascistes sont arrêtés. Les néo-nazis sont bien évidemment libérés peu de temps après, tandis qu'une traque contre les militantes antifascistes est lancée, avec notamment 14 mandats d'arrêt européens. Donc cette procédure, elle permet, sur demande d'une autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne, l'arrestation d'une personne dans un autre État de l'Union européenne et donc son extradition pour des poursuites pénales. Donc en gros, c'est faciliter les extraditions, sur la base d'accusations policières. Aujourd'hui, 4 militants et militantes antifascistes sont détenus dans des conditions violentes, avec infestation, presque pas de sortie, absence d'hygiène. 2 d'entre elles sont notamment détenues en Hongrie. Le procès de l'une d'elles, Ilaria, donc militante milanaise, a débuté fin janvier. Elle risque 16 ans d'emprisonnement ferme. Le procès de Maya, quant à elle, qui a été arrêtée à Berlin en décembre, puis placée en isolement et toujours détenue en Allemagne, a débuté le 20 mars. Le 20 mars, et elle risque 24 ans de prison ferme et va être prochainement extradée en Hongrie. Donc la prochaine audience pour Ilaria et Maya devrait se tenir le 24 mai. La répression des militantes antifascistes donc venues manifester en Hongrie s'étend donc à toute l'Europe avec la complicité des autres États pendant que de nombreux représentants de l'extrême droite européenne se réunissent à Budapest. Donc encore une fois, liberté pour toutes et toutes les inculpées.
Après la Hongrie, la Belgique maintenant.
Oui, lundi dernier ont eu lieu des perquisitions dans les locaux des chaînes de télévision kurde Sterk TV et Media Haber à Denderleuve en Belgique. Ces perquisitions ont été menées à la demande de la France dans le cadre d'une enquête sur le financement du terrorisme. Donc c'est en fait plus d'une centaine de policiers qui sont intervenus par surprise vers 1h30 du matin pour ces perquisitions. Les portes des locaux de ces chaînes ont été défoncées, les faux plafonds arrachés, plusieurs employés menottés, du matériel technique et des ordinateurs ont été saisis. Le Congrès national du Kurdistan a annoncé qu'au moment de ces perquisitions en Belgique, une agence de presse kurde à Istanbul en Turquie a aussi fait l'objet d'une autre perquisition qui a conduit à l'arrestation de 7 journalistes. Donc le Congrès national du Kurdistan dénonce une opération illégale, pointe du doigt la responsabilité de la Turquie par l'intermédiaire de la France dans cette affaire et demande dans un communiqué au gouvernement belge d'empêcher l'État turc d'exporter son conflit kurde en Belgique, de respecter les lois belges et internationales et de s'abstenir d'agir de manière illégale en s'alignant sur les politiques turques. Par-dessus tout, il est essentiel de veiller à ce que les Kurdes ne soient pas injustement ciblés à des fins de criminalisation et la liberté de la presse, si chère à la Belgique, ne doit pas être compromise dans le but d'apaiser le gouvernement turc. C'est ce que dit donc le Congrès national du Kurdistan dans son communiqué, qui considère ces perquisitions sous prétexte de financement du terrorisme comme une tentative de museler les Kurdes, même en dehors de la Turquie.
Et pour finir la rubrique internationale, les États-Unis.
Ouais, un mouvement étudiant prend de l'ampleur aux États-Unis, au cœur de l'impérialisme et de la principale puissance qui soutient politiquement, économiquement et militairement Israël depuis bientôt 15 jours, avec une accélération la semaine dernière. Des campus sont occupés par des étudiants et étudiantes pour exiger l'arrêt immédiat de la collaboration et du soutien inconditionnel des États-Unis à l'État d'Israël pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la fin des massacres dans les territoires palestiniens. Alors tout a commencé sur le site de l'université Columbia à New York, au cœur même de la ville, le 17 avril. Très vite, la direction a fait intervenir la police qui a organisé une véritable rafle avec 108 personnes emmenées dans des bus. Certains et certaines profs ont été violentés lorsqu'il et elle tenter d'intervenir pour protéger les étudiants. 15 étudiants et étudiantes ont été suspendus et une poignée de profs visés par une procédure disciplinaire. Immédiatement, médias et l'administration Joe Biden ont accusé les étudiants, les étudiantes et le mouvement d'antisémitisme. Juste après, d'ailleurs, le vote au Congrès d'un crédit militaire, un nouveau crédit militaire de 13 milliards de dollars des États-Unis pour Israël. Alors on rappelle quand même qu'Israël reçoit en moyenne chaque année 2 milliards de dollars d'assistance militaire de la part des États-Unis qui ont donc du sang plein les mains. Face à cette répression à Columbia et en soutien à la Palestine et à Gaza, 30 campus sont aujourd'hui occupés aux États-Unis et 80 d'entre eux sont perturbés. Partout, ce qui est réclamé, c'est donc un cessez-le-feu, mais aussi la suspension des programmes d'échange entre les universités et l'État d'Israël. Plusieurs directions ont fait appel aux forces de l'ordre. Ce matin, on pouvait d'ores et déjà décompter 700 interpellations en moins de 10 jours, dont des enseignants et enseignantes et dont certaines personnalités politiques qui étaient venues en soutien. Mais ce mouvement est loin de faiblir, très loin de faiblir aux États-Unis, et puis il est aussi et surtout en train de faire des petits en Jordanie, en Allemagne et en France. On y reviendra. Le mouvement étudiant s'organise.
Et on fait tout de suite une petite pause musicale en restant dans l'ambiance contestataire à l'université américaine avec Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, une chanson antimilitariste, au moment de la guerre du Vietnam. Mais peut-être pas finalement. On a un petit problème technique.
Ce qui arrive parfois dans le canu info du lundi.
Avec cette superbe clé USB qui ne fonctionne pas.
Bon,
et
bah
du coup, pas
national.
De pause musicale, hein, désolé.
On enchaîne avec
On enchaîne avec.
Voilà.
Ah bah comme ça, on va parler de la Palestine.
Et oui, puisque, comme je disais, le mouvement américain fait des petits, et notamment en France, depuis une semaine, et après donc ce qui se passe aux États-Unis, contre le génocide à Gaza, toujours, et la collaboration et le soutien des États impérialistes comme les États-Unis ou la France, à Paris, une première occupation a eu lieu mercredi dernier, donc à Sciences Po, sur le campus. Des étudiants et étudiantes ont planté des tentes, en référence donc à ce qui se passait sur les campus aux États-Unis, dans la cour de l'établissement, avant d'être délogé assez rapidement par les CRS. Dès le lendemain, il y a eu une réoccupation avec pas mal de soutien extérieur. Vendredi dernier, les CRS sont à nouveau intervenus pour expulser le campus. À l'extérieur, il y avait d'ailleurs des militants sionistes d'extrême droite qui étaient là pour en découdre, mais finalement, il n'y a pas eu d'affrontement. En solidarité, en tout cas, depuis, les campus de Sciences Po à Poitiers, à Reims et au Havre sont rentrés également dans la danse, vendredi à Poitiers et au Havre, et samedi à Reims. Alors au Havre, la direction a imposé une fermeture exceptionnelle pour stopper le mouvement. Et depuis, notamment ce matin, sur la Sorbonne, le campus de la Sorbonne à Paris a été également occupé par les étudiants et les étudiantes de manière pacifique, avec des tentes, un peu la même chose que dans les campus de Sciences Po et ce qui se passe aux États-Unis. Et toujours donc avec cette même référence. Et en quelques heures, un important dispositif policier est arrivé, nassant d'abord les occupants et les occupantes au cœur du campus, puis en les expulsant violemment. Les directions d'université et de Sciences Po marchent donc, et on le voit bien là aujourd'hui, main dans la main avec le pouvoir macroniste. Rarement des occupations de campus ont été aussi rapidement expulsées, mais a priori ce mouvement n'en est qu'à ses débuts, puisqu'il y a quand même pas mal d'appels à des assemblées générales qui fleurissent cette semaine sur plusieurs universités en France. Alors à Lyon, on le rappellera à l'agenda, mais par exemple, demain il y a une assemblée générale qui est appelée à l'IEP, par l'IEP au centre Berthelot, et jeudi à 13h sur le campus de Lyon 2 Bron.
Et on va finalement faire notre petite pause musicale quand même. Tchic, tchic.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, le Canu Info. Il est 19h19 et on est toujours à la rubrique nationale. On va parler de la journée d'action contre les morts au travail.
Oui, en fait, c'est même international. C'était la journée internationale de lutte contre les morts et les blessés au travail, le 28 avril. Et en France, la CGT en avait fait une journée d'action le 25 avril, donc jeudi dernier. La CGT et l'INSEE rappellent qu'en 2022, il y a eu 1227 morts au travail, morts au travail ou du travail, ça fait presque 3 morts par jour, dont 738 morts au travail. Et encore, ce sont des statistiques sous-estimées puisque le régime agricole, les régimes spéciaux, la fonction publique, les travailleuses et travailleurs indépendants ne rentrent pas dans les statistiques. Politis, un hebdomadaire, avait compté au moins 903 morts au travail en 2022, avec 36 jeunes de moins de 25 ans qui ont perdu leur vie au travail en 2022. Donc, face à ce fléau, le travail, la CGT rappelle que c'est à l'employeur d'assurer la sécurité des salariés. Et il y avait donc des actions organisées dans toute la France jeudi dernier. À Lyon, il y avait un rassemblement à 13h devant la préfecture du Rhône avec un hommage aux salariés décédés sur le chantier du centre commercial Confluence à Lyon par la CGT Construction.
Et on passe tout de suite au projet de loi anti-logement social.
Oui, alors d'abord, que vous soyez directement concerné ou juste que vous suivez un peu l'actualité, il ne vous aura certainement pas échappé qu'il y a en France actuellement une crise du logement. Et en réponse, il semble que le gouvernement trouve pertinent de s'attaquer aux logements sociaux, puisque le vrai problème, d'après Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, puisque tout ça s'est mélangé maintenant, ce ne sont pas les loyers qui augmentent partout de façon indécente ou alors les salaires qui ne suivent pas, ce sont les logements sociaux. Et non pas parce qu'il n'y en a pas assez, pas parce que 70% des communes ne respectent pas le quota de logements sociaux mis à disposition, non, ce n'est pas pour ça que 2,6 millions de personnes sont actuellement en attente d'un logement social, c'est à cause du logement social à vie. Alors que comprendre de ça ? D'après lui, il y aurait trop de gens qui maintenant gagnent un peu mieux leur vie et sont encore honte à eux dans un logement social. Pour éviter ça, plusieurs solutions vont être présentées sous la forme d'un projet de loi le 7 mai prochain. D'abord, faire payer les personnes qui gagnent un peu plus. Bon, pourtant, en fait, c'est déjà le cas. Les personnes qui dépassent de 20% le plafond des ressources payent un surloyer. Mais c'est pas assez pour Christophe Béchu qui veut le faire appliquer dès le premier euro de dépassement. De quoi s'assurer que les pauvres restent dans une situation inconfortable, même s'ils arrivent à gagner un peu plus. On pourrait croire en l'écoutant qu'il y a des gens qui gagnent des 1000 et des 100 et qui continuent à payer un loyer modéré. En vérité, dès qu'un foyer dépasse le plafond de ressources de 50% pendant 2 ans d'affilée, il existe déjà une procédure pour mettre fin au bail. Mais ce n'est pas suffisant apparemment et le gouvernement voudrait que cela passe à 20%. Autre façon de libérer, entre guillemets, des logements à loyer modéré, ce serait la création de logements intermédiaires, donc comprenez être des loyers un peu plus chers, mais pas trop. Or, aujourd'hui, seuls 3% des foyers logés dans le parc HLM pourraient se payer ce type de logement. Donc on voit encore mal comment cela résoudra la crise. Et enfin, dernier volet de la loi qui, pour le coup, on ne comprend vraiment pas en quoi ça va aider, c'est de donner au maire le dernier mot dans les choix d'attribution. En gros, permettre des choix sur les opinions personnelles des maires plutôt que uniquement sur les barèmes et les listes d'attente. Et donc finalement autoriser favoritisme et discrimination. Bref, avec un gouvernement qui n'envisage pas de légiférer sur les loyers pour les rendre plus décents et accessibles, qui préfère virer les pauvres des HLM plutôt que de faire construire ce qui doivent de toute façon l'être selon la loi, l'accès au logement ne risque pas de s'améliorer et va rester donc une source d'insécurité pour de plus en plus de personnes. Précarité qui augmente bien sûr la docilité au travail. À croire qu'en fait ce soit ça que cherche le gouvernement.
Et avant de passer au local, on fait une autre pause musicale avec Soul King sans visa.
J'ai sacrifié toute ma vie ou mes ailes. Y'en a qui ont fait l'asile. Si t'es pas déterre, c'est pas la peine. Inch'Allah demain ça paye. Faut t'en crois pas que je te parle bête. Si demain ça pète, pour l'honneur moi je prendrai perpète.
que Dieu nous préserve. Pas le temps pour faire la mala. Je vais cacher mon bif chez Baba. On met les gants et on bamba. Si tu me cherches, je suis pas là. Wana ben Gucci, je zone. Mghribi, Tunis et DZ. Tu veux Hadja, on est bezef. De Milano jusqu'à Marseille. Sans visa, sans papier. On viendra même à pied. On va quitter la cahier. Et faire beaucoup de papier. Sans visa, sans papier. On viendra même à pied. On va quitter la cahier. Et faire beaucoup de papier. Sans adresse, sans visa. Ici c'est devenu bizarre. Sans adresse, sans visa. Emmenez-moi loin de la misère. Sans adresse, sans visa. Ici c'est devenu bizarre. Sans adresse, sans visa. Emmenez-moi loin de la misère. Je le précise pour recommencer. Là-bas je me sentais cadenassé. Nous voir mourir non c'est pas assez. J'ai refusé de vivre dans le passé. Y'a des bons, des voleurs et des salauds. On dribble la neige comme c'est des salauds. De toute façon y'a personne quant à nous. Y'a que nos mamans qui pensent à nous. Ne t'en fais pas non non. J'fais ma place entre les piranhas. Qui connaît ou qui n'en a. Ne t'en fais pas non non. J'fais ma place entre les piranhas. On va quitter la cahier et faire beaucoup de papier. Sans visa, sans papier, on viendra même à pied. On va quitter la cahier et faire beaucoup de papier. Sans adresse, sans visa. Ici c'est devenu bizarre. Sans adresse, sans visa. Emmenez-moi loin de la misère. Sans adresse, sans visa. Ici c'est devenu bizarre. Sans adresse, sans visa.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et c'est le Canu Info du lundi 29 avril 2024 et donc on continue avec le
local.
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 Et on commence avec un sujet sur contre les centres de rétention.
Oui, jeudi 2 mai à 13h, il y aura un rassemblement en soutien à Mustapha, toujours enfermé au centre de rétention administrative de Lyon. Le rassemblement sera devant la préfecture du Rhône, côté rue du Noir. Donc pour rappel, Mustapha a été enfermé en CRA après avoir été pourchassé par la police aux frontières à sa sortie de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Alors qu'un ami était venu le chercher en voiture, la PAF est allée jusqu'à demander la plaque d'immatriculation de son ami au personnel de l'hôpital pour pouvoir le poursuivre, l'arrêter et l'enfermer en CRA. Il est au CRA depuis plus de 2 mois maintenant, alors qu'il est atteint de schizophrénie et qu'il est en danger en Guinée où la préfecture menace de l'expulser. Il est malade et il a besoin de soins, pas d'être enfermé. Il pourrait sûrement avoir droit à un titre de séjour, mais il n'a pas pu faire de recours contre l'OQTF qu'il avait reçu en août. Donc il y a déjà eu 2 rassemblements pour sa libération. Une délégation a été reçue par la préfecture, qui n'est pour l'instant pas revenue sur sa décision. Donc c'est un appel contre la criminalisation des personnes étrangères, la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiatriques et pour la libération immédiate de Mustapha, qui est lancée avec donc le rendez-vous jeudi 2 mai à 13h devant la préfecture où une délégation devrait de nouveau être reçue. Et en plus de cette action locale, le collectif Lyon Anti-CRA appelle à un mois de mai d'action décentralisée et autonome contre le business des CRA en ciblant des entreprises et administrations dans toute la France. Je crois que c'est un appel intercollectif anti-CRA dans toute la France.
Et depuis la fin de la trêve hivernale, il se passe pas mal de choses à Lyon. On a des informations à vous transmettre.
Oui, avec la fin de la trêve hivernale et l'application presque automatique de la loi Casbarian, la répression et les expulsions de squats continuent à Lyon. Et donc, contre cette répression, jeudi dernier, des habitants et habitantes ainsi que des soutiens ont envahi le siège de Lyon Métropole Habitat, dont la majorité du CA dépend de la métropole de Lyon et dont la présidente est membre du parti Europe Écologie Les Verts. Donc, LMH a engagé une procédure dite Casbarian pour expulser sans délai un nouveau squat ouvert depuis une semaine rue Docteur Bonhomme à Lyon. Donc ce nouveau squat avait été ouvert pour reloger les habitants et habitantes du Casdal, dont l'expulsion est prévue fin avril. Alors que l'action avait pour but d'obtenir un rendez-vous, le bailleur Lyon Métropole Habitat a directement appelé les forces de l'ordre, arrivées en nombre, qui ont donc directement évacué les militants et militantes. Le nouveau squat rue Bonhomme risque donc d'être expulsé début mai avec la procédure administrative, alors que la métropole s'était engagée à faire l'intermédiaire et le squat du Casdal risque également d'être expulsé imminemment. Les habitants et habitantes du squat de Nuzières, cette fois-ci, en appellent quant à elles et eux à un rassemblement demain à 17h30 pour notamment dénoncer les conditions d'occupation et également l'inaction des pouvoirs publics. On va lire leur communiqué.
Des lits sur les trottoirs. L'hébergement d'urgence est totalement saturé dans le Rhône depuis plusieurs années. Mais la préfète Madame Buchiot poursuit l'évacuation des campements et expulse les squats sans solution de relogement. C'est la politique du pire.
À la mairie de Lyon, on s'indignait en octobre de l'expulsion d'une centaine de personnes d'un squat. La ville dénonçait une évacuation inacceptable et la manière dont la préfète avait procédé, regrettant le manque d'un cadre d'intervention. Pas d'expulsion sans relogement. Madame Brunel, adjointe au maire de Lyon, déléguée aux solidarités et inclusion sociale, déplorait. Cette façon de faire ne va rien résoudre. Sans prise en charge en amont, sans solution derrière, ce sera la fin. Là, d'autres squats vont se créer. Il faut penser la situation dans sa globalité.
C'est dans ces conditions que Denuzière a été occupée. Madame Brunel est venue dès novembre 2023 rencontrer les habitants et a annoncé sa volonté d'aller vers un conventionnement. Et depuis, ce bâtiment n'est pas chauffé et insuffisamment équipé, difficile à isoler. Certes, les occupants n'ont pas été jetés dehors, mais dans quelles conditions ont-ils passé l'hiver ? Depuis 6 mois, des fonds ont été trouvés pour financer les travaux d'amélioration du bâti, mais rien n'a été fait car il manque l'essentiel, l'engagement de la mairie.
Le propriétaire est le seul habilité à demander des travaux de réfection de la toiture. Les associations n'attendent que son accord pour faire les travaux indispensables à l'habitabilité du lieu. C'est la condition pour que les habitants soient enfin protégés des rigueurs de l'hiver prochain et des canicules à venir.
À l'automne dernier, M. Doucet inaugurait une politique plus solidaire pour la ville de Lyon en cherchant une issue plus humaine à l'occupation du gymnase Bellecombe. Alors pourquoi une telle inertie qui conduit à infliger cette épreuve aux habitants de Denuzière ? Monsieur Doucet, Madame Brunel, le temps presse. Il ne tient qu'à vous de sortir de l'impasse une centaine d'occupants, familles, enfants et célibataires.
Monsieur le maire, nous vous demandons de vous occuper de la toiture à Denuzière, de permettre aux associations d'y faire les travaux d'aménagement indispensables avant l'automne, de clarifier le statut de cette occupation, de reprendre les négociations avec l'ensemble des acteurs pour trouver des alternatives à une politique d'État brutale et indigne.
Et donc il y a cet appel à un rassemblement demain, mardi 30 avril, à 17h30, place de la Comédie, au métro Hôtel de Ville. Et c'est le collectif Intersquat de Lyon qui appelle.
Et on va faire encore une petite pause musicale avant notre interview des grévistes de Cotel. Et la pause, c'est justement Nos Victoires de Rosset.
La première étape, c'est de raviver l'espoir et les fraternités qu'ils ont enterrées.
L'espoir c'est comme la base, il attaque, fait foum foum tchak tchak. Brûle le vice et la grâce, change le monde et surtout la face. Mes pensées sont belles mais sont pas toutes douces. J'ai des rêves, j'ai pas des gourous. Je fais des roumous pour que l'empire se retrouve sous loup. On va changer les fiches, on va manger les riches. Ils diront qu'ils sont foutus, on dira qu'ils sont goûtus. Ils veulent des bunkers et des niches, ils se protègent les miches. On va mettre les empires tout nus pour pas que les empires nous tuent. Le capitalisme n'est pas irremplaçable, racisme n'est pas irremplaçable. L'exploitation des peuples n'est pas irremplaçable. Si un autre monde est impossible pour votre mental frère, c'est que l'aliénation a fait son taf avec votre mental père. On vous laisse les émojis, on prend les références, les armes, la théorie. Obi-Wan Kenobi, si t'as pas de projet de société, d'humanité, viens pas nous affronter, te la raconter.
Ouais, t'as rien à raconter.
L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force à nos victoires. L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force, force, force. La colère sur la table comme un foulec. Votre calme sert de cache-misère, de fausse maturité poubelle, ça en a tout l'air. Je vois la lumière au bout, laissez-moi faire beaucoup. J'ai la veine dans le cou, Vegeta Son Goku. Destin anormal, on se sent mal, ambiance bancale. Les petits on leur parle de fin du monde et d'angoisse. Que des remparts, ça rend compulsif rentable. Le désespoir est capitaliste et occidental. Que des films et séries sans idéal. Pensez par des grosses productions sans idéal. Dans le cinéma sans idéal, vous savez pas qui fait. Vos conceptions déprimées, fin d'humanité. Les petits vont tout recalibrer. L'heure n'est pas au constat, l'heure est aux portes de sortie. Sans projet, on est des âmes et des corps vides. De la chair morbide, point levé sert à rien. Sans message nuages assortis. Vous éjectez du cockpit, mettez nos rêves sur orbite. L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force à nos victoires. L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force, force, force.
Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, c'est le Canu Info du lundi 29 avril et on passe tout de suite à notre interview au local avec des camarades de Cotel.
Ouais, alors on était passé déjà deux fois sur leur piquet de grève, ça fait plus de 4 semaines qu'ils sont en grève. Alors on a aujourd'hui 3 personnes de la CGT Cotel, Jean, Christian et Florent. Merci beaucoup à vous d'être venus aujourd'hui pour nous raconter un petit peu en détail ce qui se passe déjà depuis plusieurs semaines sur votre entreprise. Alors pour commencer déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous présenter ce que c'est que cette boîte Cotel à Rieux-la-Pape?
Allez, salut, pardon, pas l'habitude du micro, donc allez, bonjour à tous, donc je m'appelle Jean et je travaille chez Cotel depuis 35 ans et Cotel c'est une boîte qui fabrique la Javel Lacroix et la Soupline adoucisseur. C'est une filiale du groupe en fait Colgate Palmolive. Et elle a racheté la boîte dans les années 88 à peu près. Voilà. Et avant, c'était le site, c'était Le Sueur Cotel. C'était les huiles Le Sueur et Cotel. Donc on a été racheté par les Américains, donc qui ont divisé, qui ont gardé le côté Javel adoucissant et qui ont revendu le reste.
D'accord, ça représente combien de personnes aujourd'hui, actuellement, sur ce site à Cotel?
Aujourd'hui, là, en l'occurrence, on est 104 personnes. 104 personnes, et c'est le nombre de licenciés, en fait. Voilà, aujourd'hui.
Grosso modo, dans cette boîte, je suis passé sur le piquet de grève, donc je le sais, mais pour que vous nous expliquiez, c'est que vous êtes quand même très nombreux, et nombreuses, mais surtout nombreux, à y travailler depuis très longtemps.
Oui. La moyenne d'âge du personnel, c'est 54 ans. Et l'ancienneté moyenne, c'est 26 ans. Donc, c'est des personnes qui ont fait leur carrière dans la boîte, quoi. C'est des personnes qui n'ont pas connu pratiquement aucune autre boîte. Donc, très compliqué à reclasser. Et aussi, au niveau de l'âge, déjà. Et puis, au niveau du savoir-faire. Quand vous faites qu'une société, vous sortez du monde du travail traditionnel, puisque vous changez pas de boîte constamment, c'est très compliqué de peut-être se remettre dans le fait de faire un CV, etc. Vous avez un savoir-faire, mais qui correspond à une société. Voilà.
Alors, du coup, ce savoir-faire, tu nous l'as dit, cette boîte-là, qu'est-ce qu'elle représente financièrement pour la direction locale? Et puis, tu nous as dit que ça avait été repris dans les années 80 par une entreprise américaine. Il y a des profits. Il s'élève à combien ces profits? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça?
Oui, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, au mois de janvier, on a eu une annonce par le directeur et le groupe, comme quoi ils comptaient fermer la boîte et ils voulaient décentraliser nos productions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fabrique la Javel Lacroix sur le site et ils veulent la décentraliser, la production en Belgique, bien qu'on fasse des profits. Donc rien que l'année dernière, on a fait un peu plus d'1,7 million de profits qui est redistribué aux actionnaires en Amérique. Et on parle de profit net, hein. On ne parle pas de profit brut.
Pour l'entreprise Cotel de Rieux-la-Pape.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Et à l'échelle internationale, cette entreprise, ça représente combien?
En fait, le groupe Colgate au niveau mondial, c'est plus de 2 milliards de bénéfices, quoi. Voilà.
D'accord.
Donc, ils ont les moyens, quoi.
Et donc leur argument, j'imagine, pour la délocalisation, c'est quoi ? Faire plus de bénéfices ? Parce qu'ils considèrent qu'ils n'en ont pas assez ? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté en janvier ?
En fait, ils nous ont raconté qu'on avait une baisse de volume de production. Donc, comme on a moins de volume de production, il faut décentraliser. Voilà. Donc, il faut gagner plus d'argent, et même si on a moins de volume.
D'accord, alors du coup cette décentralisation qu'ils vous ont annoncée en janvier, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là, puisque depuis vous avez fait grève, il y a eu des négociations, mais à ce moment-là ils vous l'annoncent, ça veut dire quoi concrètement pour vous les 104 salariés ?
Ben, à ce moment-là on a pris un gros coup de massue sur la tête, parce que on ne s'attendait pas du tout à ça quoi. Alors effectivement ça fait des années qu'on entendait dire oui mais la boîte elle va fermer parce qu'on a des volumes qui diminuent etc. mais on se dit
on s'y attend jamais,
on entend ça depuis tellement longtemps que ça va jamais se produire et comme les volumes, même si les volumes descendaient, alors qu'ils sont stabilisés, hein. Mais même si les volumes descendaient, comme on faisait du bénéfice, donc on se disait, c'est pas la peine. Et les conséquences, c'est quoi ? C'est 104 personnes, 104 familles qui se retrouvent à la rue, quoi. À la rue, pourquoi ? Parce que on a ces financiers de chez Colgate Palmolive qui veulent gagner plus d'argent, voilà.
Ce qui a été compliqué aussi, c'est qu'en fait, je me permets, Christian, hein. Ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, nous, au CSE, on voyait que ça se dégradait et que, donc, du coup, on était un petit peu vigilant et en alerte par rapport à ça. Et donc, on a déclenché un droit d'alerte au niveau du CSE, donc en octobre 2023. Et on a un CSE mensuel tous les mois où on discute et ainsi de suite. Et on nous a dit, non, vous inquiétez pas, on n'est pas du tout dans une fermeture du site, puisque... Et pas en janvier, alors qu'on s'y attendait vraiment... Ouais, pas du tout, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. On a vu arriver un bonhomme qui était le DRH Europe, accompagné de la direction, et qui nous ont dit, fermeture du site pour raisons économiques. Mmh. Et comme disait Jean, les raisons économiques, je sais pas où elles sont, parce qu'en fait, on a quand même fait 1,8 million cette année. Et puis si on regarde tous les bilans financiers des années précédentes, c'était 2 millions, enfin ça tourne aux alentours de 2 millions, quoi.
Donc là, ils vous annoncent une procédure de licenciement économique, en gros ? C'est ça ? Et c'est quoi les délais qu'ils vous annoncent ? Et concrètement, qu'est-ce qu'ils vous proposent en termes d'indemnité ?
Alors, les délais qui étaient annoncés, et qui sont toujours d'actualité, hein, c'est fermeture du site au mois de septembre.
D'accord.
Et indemnité, c'est le strict minimum légal, quoi. Voilà. Donc, des personnes qui ont donné leur santé sur un site... pendant des années, sont remerciés comme ça par un groupe américain qui veut toujours faire plus de bénéfices.
En fait, je prends la parole, Florent.
Vas-y.
En fait, il se base sur une loi, la loi Macron, en gros, pour la sauvegarde de la compétitivité. Alors qu'en fait, c'est les numéro un dans leur domaine. Donc, la compétitivité n'est pas du tout menacée chez eux. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Ouais, alors Christian,
parle un peu dans le micro.
C'est pareil, en fait, ce qui est compliqué, c'est pas compliqué, c'est assez simple. C'est que pendant des années, en fait, le site de Cotel a été une entreprise très très rentable, très juteuse et ainsi de suite, sur lequel ils n'ont fait aucun investissement publicitaire et ainsi de suite. Et donc, en fait, ils ont pressé le citron. Et puis là, effectivement, avec les lois en vigueur, telles Egalim et ainsi de suite, où ils ne pouvaient plus faire de publicité, ils ont laissé l'activité, ou en tout cas les ventes baissaient à un tel point que les marques distributeurs nous ont un peu pris de... Ils nous ont pris des volumes et donc
Les parts de marché.
Les parts de marché, voilà, cherchez le mot. Et donc là, ils voulaient pas réinjecter de l'argent là-dedans. Donc du coup, voilà, ils se sont dit, maintenant qu'on a pressé le citron bien correctement et jusqu'au bout, on va vendre le site. Or, le site reste comme disait Jean, il reste rentable. Hein.
Ah, puis,
On était en 1990 quand on est rentré à peu près, puisqu'on est rentré à peu près à la même époque, Jean. On était 250 salariés et il y avait plus de 100 intérimaires, donc on était 350. Aujourd'hui, on est 104. Donc quand on connaît le coût de l'emploi, on voit que.
qu'en fait, il y a eu un changement de stratégie de leur part. C'est que, en fait, jusqu'à présent, Colgate ne produisait que dans ses propres usines ses propres produits. Et bien que nous, ça faisait des années qu'on demandait à pouvoir essayer d'avoir d'autres volumes, peut-être éventuellement de marques distributeurs ou autres. Et en fait, bah là, ils ont complètement changé de cap. Ils vont chez un concurrent, chez un prestataire qui fabrique pour des marques distributeurs. Du coup, bah, nous, ils nous ferment pour ça, pour augmenter purement et simplement le profit, profit net. Quoi.
Pour préserver la marge. Voilà.
Préserver la marge. Ouais.
Ce qui est incroyable quand même, c'est que aujourd'hui, Colgate, ils ont un autre site hein, qui est sur Compiègne et où ils pourraient récupérer les volumes pour les replacer chez eux, quoi, et conserver justement éventuellement des emplois et continuer à garder des volumes. Et c'est pas le cas. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est que Colgate va faire fabriquer nos produits chez le principal concurrent. C'est notre principal concurrent, McBride, qui lui fabrique pour les marques distributeurs. Donc, en plus, quand on a appris ça, on est tombé sur la tête. On dit, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Comment ça peut être possible ?
Alors, justement, j'imagine que vous avez mis forcément ça un peu dans la balance des négociations. Quand vous avez eu l'annonce en janvier, vous avez discuté, j'imagine, entre vous, au sein de la section CGT. Je sais que j'ai vu quelques drapeaux CFE-CGC aussi sur le piquet de grève. En tout cas, j'imagine, vous avez discuté de ça. Vous êtes tombés tous et toutes d'accord rapidement, il fallait partir en grève, et là vous êtes partis en grève reconductible, c'était il y a quasiment 4 semaines et demie. Alors comment ça s'est déroulé cette grève, le début, le piqué, comment vous avez tenu, etc. Racontez-nous un peu ça.
Alors moi, en tant que délégué syndical, je voulais pas mettre un deuxième coup de matraque au personnel, parce que le premier coup de matraque, c'était d'apprendre que la société fermait. Et donc c'est très compliqué déjà de perdre son emploi. Je voulais pas tout de suite rentrer dans une grève qui soit dure et que ça soit tout de suite la deuxième sanction avec une perte de salaire immédiate par rapport à tout le monde. Donc j'ai cherché à éviter ça par le dialogue avec la direction et on a fait des grèves par coup de semence en fait. On a fait un jour de grève, on a fait venir les médias, on a discuté avec les médias, et avec la première demande qui a été la nôtre, c'était la reprise du site qui était rentable, donc par une société, pour que tout le monde conserve son emploi. Donc dans le temps, on a fait ça, on a fait plusieurs jours espacés les uns des autres, où tout le monde sortait, tout le monde est sorti. Voilà. Et il y a personne qui est jamais re-rentré. On est tous restés dehors. Et par la suite, au fur et à mesure du temps, comme on a vu que en fait la société, son axe, c'était réellement de séparer du site et ne pas faire reprendre la société. Bien qu'on soit intervenu, hein, on a fait venir des députés, je ne les citerai pas parce que je veux faire de pub à personne, mais on
en a cité un la dernière fois, mais, mais pas de souci, on ne le recite pas.
Et bon, c'est sympa, hein, moi, ouais. Ils sont venus faire leur show, et moi, comme j'ai dit, je suis marié avec personne, moi, ce que je veux, c'est que la boîte subsiste et continue à vivre. Et donc, dans ce contexte-là, on a essayé d'aller au bout du bout, mais au bout d'un moment, comme on n'était pas écouté non plus, donc on est rentré sur quelque chose qui était plus dur, donc on est passé sur une grève totale, c'est-à-dire illimitée, donc non-stop, et tout le monde a accepté ce fait-là, parce que en fait, moi, j'ai jamais forcé personne à me suivre, mais chaque fois, ça a été une proposition. Moi, comme j'ai dit, je ne suis pas un dictateur. On ira au bout tous ensemble. Et si on y arrive, tant mieux. Mais c'est tout le monde qui décide. C'est pas une personne qui décide.
90% de grévistes.
90% de grévistes et quelques arrêts maladie aussi. Disons grosso modo, tout le monde a suivi. Et d'ailleurs, quand on est arrivé sur le piquet de grève, à chaque fois qu'on y est passé, il y avait énormément de gens. Oui. Vous avez non seulement fait grève, mais tenu le piquet aussi, quand même, pendant 4 semaines.
À partir du moment où on s'est arrêté, donc c'était fin mars, hein, un mercredi, ouais. Je me rappellerai, un mercredi, puisque Jean, ce qu'il a En fait, ça fait quand même bientôt 3 mois, hein, cette histoire qu'elle a démarré, puisqu'on disait que c'était fin janvier, début février. Et le premier mois, en fait, on a... Jean dit qu'on n'est pas rentré en grève, il a tout à fait raison. Mais surtout, il y a un élément essentiel qu'on oublie, c'est qu'en fait, on a pris le temps de l'analyse. Le premier mois, il a servi à ça, le temps de l'analyse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va faire, comment on réagit. On s'est fait aider par les experts qui nous accompagnent depuis de nombreuses années, par notre avocat, par tout un tas de personnes. Et à l'issue de ce mois d'analyse, effectivement, bah, il s'est avéré que la négociation, la discussion n'allait pas aboutir pour le bien des salariés. Et donc, il était nécessaire de rentrer un petit peu en combat, en grève. Et donc, du coup, on a décidé de durcir. Les médias n'étaient plus suffisants. Il fallait durcir pour... Alors, j'aime pas dire ce mot, parce qu'en fait, on n'oblige jamais personne. Mais en fait, ça fait partie de la négociation, à un moment donné, de ne plus produire et de changer... l'équilibre des forces, de façon à ce qu'on puisse obtenir un peu mieux.
Alors justement, dans ces négociations, parce que là, on l'a compris, vous êtes arrivé, vous aviez de quoi dire en face à la direction, que vous aviez des arguments pour dire que soit fallait garder, obliger peut-être à une reprise de site, ou en tout cas augmenter les indemnités. Comment se sont déroulées ces négociations? Donc là, il y a eu ces premières petites grèves ponctuelles. Après, vous êtes rentré dans une grève un peu plus dure et illimitée, qui a duré 4 semaines. Le déroulé un peu de cette grève et de ces négociations, et après, on va arriver un petit peu à l'aboutissement, qui est ce qui se passe en ce début de semaine. Comment ça s'est déroulé exactement? Comment la direction a répondu à ça? Vous n'êtes pas obligé de tout dire, hein. Vous pouvez en dire un peu.
Non, mais c'est, je vais imaginer la chose. Hein, c'est très basique, en fait, très basique. Ça a été très, 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 très compliqué parce que on a une direction qui a une mentalité américaine et c'est un peu comme la danse. Et on fait un pas en avant et 3 pas en arrière. Donc très, très compliqué de garder un peu, le moral. Parce que c'est l'ascenseur émotionnel. On se dit, tiens, on a gagné ça. Et tout de suite après, on se rend compte qu'on a perdu trois autres trucs à côté. Je te donne de la main droite, mais je te reprends de la main gauche. En fait, dès le départ, ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient une enveloppe et ils ne voulaient pas mettre plus que l'enveloppe qu'ils avaient décidée pour le personnel. Donc, ça a été très, 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 très compliqué. Très très compliqué les négociations. Il restait constamment bloqué sur des fêtes et ils ont jamais rien fait pour que ça progresse. Rien. Il faut qu'ils soient acculés au mur pour que ça progresse. Et là, en l'occurrence, on a réussi à faire bouger. Là, à la fin, pourquoi? Parce que il y a en plus les collègues qui sont sur le site de Compiègne, ils ont débrayé par solidarité en plus avec nous. Ils ont commencé comme on a fait également. Ils ont commencé par 2 heures de grève, ça, pendant une négociation. Donc on a averti la direction, on a dit regardez, là les collègues ils sont en train de bouger là maintenant. Ça, on commence à avoir l'éventail qui commence à s'ouvrir encore plus large. C'est vous qui choisissez. Ils ont toujours rien voulu écouter, ils voulaient pas entendre. Donc la négociation d'après, ils ont débrayé un jour complet. Et là, je pense que ça a été quand même un élément qui a été assez déclencheur. Un autre élément qui a été déclencheur aussi, c'est que on a rencontré la préfète du Rhône et on a fait ressortir quand même pas mal de problèmes sur ce qu'ils avaient fait, comme le fait qu'ils ont commencé à faire produire les sites en Belgique, alors que en fait on n'avait pas encore clôturé ici le plan sur Rieux chez nous, quoi. Donc c'est quand même une atteinte au droit de grève en France, et donc ça a quand même, je pense qu'il y a, c'est une conjugaison de faits qui a fait qu'ils ont bougé les lignes là maintenant.
C'est pas évident d'expliquer en fait, parce que ça s'est fait en plusieurs temps.
C'est ça.
Ça s'est fait en plusieurs temps, comme j'expliquais tout à l'heure, le premier temps de l'analyse et ainsi de suite. On a dû digérer un petit peu, on a dû gérer le personnel aussi, hein, et puis on a dû digérer ce qui nous était proposé. On voulait nous imposer une temporalité, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais quand ils nous annonçaient le projet, tous les 15 jours, on allait se rencontrer pour parler, de l'avancement du projet, ainsi de suite. Le premier mois, nous, on a complètement refusé. On a complètement refusé ce projet-là. On a dit non, non, nous, il ne s'agit pas de fermer l'usine, il ne s'agit pas de mettre 104 personnes à la rue. Il faut trouver un repreneur. Donc, partons dans l'idée de retrouver un repreneur. Ensuite, on a vu que, effectivement, ça allait être compliqué dans ce sens-là. Et donc, en parallèle de rechercher un repreneur, on a commencé à travailler sur le projet qui nous était remis. Et on s'est dit, ça, c'est leur projet, c'est pas le nôtre. Donc, nous, on va travailler sur notre propre projet. Et on va, à un moment donné, non pas travailler sur ce qu'eux nous proposent, mais sur ce que nous, on va leur proposer. Et donc, on s'est mis un peu en ordre de marche. Et on a travaillé, c'était, je ne vais pas vous dire nuit et jour, ce serait prétentieux, mais c'est vrai que
c'était pas loin,
de 7h du matin à 21h, on était 8 élus, 10 élus, 12 élus, une intersyndicale, on peut dire. Vous avez vu des drapeaux de CFE-CGC, il faut leur rendre aussi ce qui leur appartient. Ils ont travaillé avec nous main dans la main. Et on a donc rendu à un moment donné la direction, on leur a dit, ok, on est prêt à discuter, mais on discutera sur notre contre-proposition et non pas sur la vôtre.
Alors justement, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de cette interview, là aujourd'hui, où vous en êtes, lundi là, je sais que vous avez repris le travail, c'est donc que vous avez eu une proposition que vous considérez comme acceptable après 4 semaines et demie de grève reconductible, entre autres, où est-ce que vous en êtes ?
Là aujourd'hui, on a repris le travail aujourd'hui, on est resté vendredi dernier jusqu'à, pour vous dire la tension des négociations, c'était pratiquement 11h du soir à négocier avec la direction, avec, comme je vous ai dit, des va, des viens, et je te donne ci, mais je te reprends ça. Et donc, on a réussi à obtenir pratiquement la totalité des choses qu'on avait demandé au départ. Voilà. Donc, ce qui prouve bien que quand on se bat, on arrive. Quand on se bat et surtout qu'on est solidaire, on réussit à vaincre même les grands.
Alors, c'est une belle phrase de fin. Vous avez une cagnotte litchi. On en avait parlé déjà nous la semaine dernière à la suite du passage sur votre piquet de grève. Vous avez besoin de sous encore. Vous avez besoin de diffuser cette cagnotte.
Si c'est possible, oui. Pourquoi ? Parce que il va y avoir des frais qui vont s'ajouter. Ça va être des frais d'avocat, des frais de procédure, etc. Donc oui.
Eh ben on va la diffuser, on la mettra sur notre blog comme on l'avait fait la semaine dernière, et on invite évidemment toutes les personnes qui nous écoutent à la diffuser de leur côté et à donner un peu de sous s'ils en ont les moyens et l'envie. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir pour nous parler de ce qui se passe à Cotel, de cette grève et du combat que vous avez mené. On espère vraiment que ça va se finir pour le mieux pour vous. Et puis, on vous dit à bientôt. On tiendra au jeu, nous, dès lundi prochain, un petit peu des suites et des détails de toute cette histoire. Merci à vous.
Merci à vous tous.
Et puis, on se revoit mercredi dans la rue, de toute façon.
C'est vrai.
Et justement, on passe à l'agenda pour finir cette émission. Ça commence donc dès demain à midi. Vous pouvez aller à un rassemblement pour la Palestine et aussi un soutien aux étudiants de Sciences Po Paris, de la Sorbonne, de l'EHES, de Columbia et de tous les militants convoqués par la police. Ça se passe devant le Centre Berthelot, c'est l'arrêt T2, Centre Berthelot Sciences Po. Et toujours mardi, vous pouvez aller à 17h30, place de la Comédie, Hôtel de Ville, pour le rassemblement en soutien au squat de Nusière dont on vous a parlé dans l'émission.
Et mercredi 1er mai à 10h30, c'est donc la manifestation pour la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs du 1er mai. Donc rendez-vous à Garibaldi à 10h30. La manifestation se prolongera par un cortège rouge et noir jusqu'à Place Satonnet avec un repas de quartier organisé par Radio Canu. Donc amenez à boire et à manger et Radio Canu s'occupe du traditionnel punch du 1er mai.
On a hâte.
Et par la suite, vous pourrez poursuivre les festivités du 1er mai à 17h avec des concerts gratuits Ultramoule et Duo Almulette au Zincadi, 4 rue Croix-Barré à Lyon 7e.
Et donc jeudi 2 mai, on ne s'arrête pas, il y a un rassemblement à 13h, donc devant la préfecture du Rhône, côté du Noir, rue du Noir, en soutien donc à Mustapha qui est au CRA et pour donc la levée de son OQTF et sa libération. On en a un peu parlé dans l'émission.
Et c'est la fin de cette émission. On vous dit à la semaine prochaine.
Ou avant dans la rue, comme d'hab.
À mercredi surtout. Ouais.
Et on vous laisse avec les bandes continues. Oui, venez au repas de quartier de Radio Canu, place Satonnet. Il y aura aussi un plateau radio, j'ai oublié de le dire.
C'est vrai. Ciao.
Well, big up all massive and crew. Guys, Nicodemus a long time and you there chat. I know say left out, never change my spot, seen? And big up all massive, come here, big up on the 24 tracks, seen? Hear me now! Old veteran, we are the old veteran, land. Old veteran, we are the old veteran, lord. Old veteran, we are the old veteran, Demus. Old veteran, we are the old veteran. Me come in at the business from 1971. Me DJ Papa Roots a for the junglist, man. Me DJ Papa Jam is for the firehouse, man. Me DJ Jack Ruby in a sentence. DJ Papa Taros over Portland. DJ Steramar for the one skeng, man. Me DJ Papa Coxon up a London. And me and Super Cat, they are walking the young cars. Old veteran, we are the old veteran, lad. Old veteran, we are the old veteran, call. Ranking Cheva, him a old veteran, man. Ranking Joe, him a old veteran, man. Josie Whale, him a old veteran, man. Say Brigadier, him a old veteran, cause boy, a boy, big man, a big man. And gal, a gal, and a woman, and sound. Sound.